Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Bonjour Turbine, émission en direct du Media Lab du WIP, en direct sur Station B et en différé sur Radio Pulse. Thème du jour, sport et handicap. Nous avons en plateau deux invités spécialistes du sujet qui pourront nous en dire plus. Je suis aussi avec Alain, David, Lafken, Mad, Marion et Thomas à la technique. Tout le monde a bravé vents et marées, barrages et blocus en cette journée de grève nationale pour vous retrouver ce soir. On ne pouvait pas vous laisser sans votre dose bimensuelle de Bonjour Turbine. David, je te laisse la parole pour introduire le sujet du jour.
Eh bien, merci. Bonsoir à tous et à toutes. Pour ce nouveau numéro de Bonjour Turbine, aujourd'hui, il sera question effectivement de sport et de handicap. Alors, un petit peu d'histoire pour commencer. Un jour, un médecin fit un rêve. Il imagina de réunir des milliers de gens gravement handicapés ou paralysés pour disputer des Jeux Olympiques, au même titre que les athlètes valides. Idée a priori saugrenue dans un monde qui alors écartait d'emblée les personnes invalides uniquement et les voyait comme des personnes à plaindre, incapables d'exploits sportifs, considérant qu'ils avaient déjà assez à faire pour supporter leur handicap. Il fallait donc avoir le courage aussi d'affronter le regard des autres. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'un rêve, mais bien plus d'une réalité. Les personnes diminuées par une maladie ou par un accident de la vie peuvent accéder au sport, chacune à son niveau, et goûter le plaisir du défoulement, de l'amélioration du cœur et même d'accéder à la compétition. Et ceux qu'ils soient hommes, femmes, enfants, quel que soit leur handicap, c'est pour eux une source de bienfaits, facteur de progrès et de soutien moral, une véritable thérapie. Le médecin à l'origine de ce mouvement mondial de sport pour les handicapés est le docteur Ludwig Goodman, aujourd'hui Sir Ludwig. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il introduisit le sport tout d'abord au Spinal Injury Center, excusez mon accent anglais, à l'hôpital de Stoke-Mandeville en Angleterre, le considérant comme un véritable traitement médical. Il est appliqué tout d'abord aux hommes et aux femmes souffrant de lésions de la moelle épinière et paralysés à partir de la ceinture, voire de la poitrine. À cela deux raisons, d'abord sur le plan physique pour entraîner le cœur et ensuite sur le plan du moral pour prévenir l'ennui de la vie hospitalière. Évidemment, le cheminement jusqu'à la reconnaissance de l'handisport n'a pas été simple. Le sport est basé sur la notion de dépassement de soi à travers divers exercices qui conduisent souvent à la notion de performance chez les personnes valides. Pour la personne handicapée, le sport fait souvent partie de la rééducation. Cependant, pour la personne en situation de handicap, le sport doit être encadré avec discernement car il pourrait s'avérer une mise en danger supplémentaire. De plus, il peut être aussi compliqué d'accéder à certains terrains de sport. Quand les conditions sont réunies et que la médecine donne son feu vert, c'est la motivation qui fera souvent toute la différence si on veut aller plus loin dans le dépassement de soi. Généralement, le moteur qui pousse toutes ces personnes à choisir le sport, c'est le plaisir. Plaisir partagé pour les sports collectifs comme le basket en fauteuil, le foot avec ballon sonore pour les aveugles ou les sports individuels comme la natation et la course et bien d'autres évidemment. En France, ils sont 35 000 licenciés, mais on dénombre plus de 60 000 pratiquants. Il existe la possibilité de pratiquer 25 sports en loisirs ou en compétition. Et je dois avouer que je suis très admiratif de toutes ces personnes qui font le choix du sport. Quant à ceux qui deviennent des champions dans leur discipline, on les voit et on en parle de plus en plus. C'est une bonne chose et ils sont doublement exemplaires. Avant de présenter nos deux invités, je voudrais évoquer un sportif handisport que j'ai eu la chance de rencontrer, qui a porté avec succès non seulement les couleurs de la région, mais aussi de la nation. Il s'agit du pongiste Aymeric Martin, licencié à la Bayard d'Argentan, multimédaillé champion olympique en 2000 à Sydney, champion d'Europe, champion du monde par équipe et porte-drapeau de la sélection française paralympique aux JO de Pékin en 2008. Emery, qui approche de la cinquantaine, ce sportif donc s'est mis en tête de se qualifier pour les JO 2024 de Paris. Voilà pour la petite parenthèse locale, mais entrons dans le vif du sujet. Jingle. Aujourd'hui, nous recevons Donovan Serkies, coach sportif qui vient d'ouvrir une salle de sport adaptée Midesi Sport à Colombelles, et également Philippe Pasquier, responsable du pôle santé à Cap Sport à Hérouville-Saint-Clair. Alors bonjour messieurs, nous allons essayer d'en savoir un petit peu plus sur le handicap dans le sport. Alors tout d'abord, une petite présentation, vous pouvez pour vous présenter et présenter aussi peut-être la structure d'où vous venez.
Eh bien bonjour, pour moi c'est Donovan. Donc, j'ai ouvert une salle de sport adaptée qui s'appelle Medici Sport à Colombelles. Donc, c'est une salle de sport pour laquelle le handicap et les antécédents pathologiques sont au cœur de la pratique. Il ne s'agit pas de faire des exploits, des performances, mais bien de pratiquer avec le plaisir. Ce n'est pas parce qu'on a une arthrodèse, c'est pas parce qu'on est obèse, c'est pas parce qu'on est de petite taille, c'est pas parce qu'on a une prothèse quelconque ou un membre amputé qu'on ne peut pas prendre de plaisir au travers de la pratique physique.
Et pour vous, Philippe ?
Alors, Philippe Pasquier, donc, je travaille à l'association Cap Sport sur Hérouville-Saint-Clair. Donc, je suis référent du pôle santé-handicap. Voilà. Et donc, nous menons différentes actions avec des publics très variés, donc, que ce soit des enfants, des adolescents, des adultes, des seniors. Et nous, les sports, on est dans du sport loisir, bien-être, avec tous les bénéfices que ça peut représenter au niveau individuel et collectif. On n'est pas dans une pratique de compétition. Voilà. On a différents créneaux, donc des créneaux spécifiques qui sont destinés, par exemple, aux enfants autistes mineurs. Donc là, c'est de l'accompagnement individualisé. On accueille également des publics adultes autistes. On travaille avec des structures spécialisées, telles que l'AIT de l'Ébisée, par exemple, le FAM de Verson. Donc là, on intervient au sein des structures pour proposer de l'activité physique. Voilà. Et les formes de pratique, donc c'est du renforcement musculaire, du travail de la motricité globale, motricité fine. On travaille sur la cohésion, le travail collectif. Voilà, tous les bienfaits du sport, que ce soit individuel et collectif. Le sport, quel que soit le public auquel il est destiné, donc les bénéfices sont globalement toujours les mêmes.
Alors justement, vous avez un petit peu empiété sur la question suivante. Je voulais savoir quelles actions concrètes vous menez chacun de votre côté.
Eh bien moi, mes 4 années de salariat au travers d'un centre de rééducation m'ont permis de voir que le sport peut maintenir les bienfaits de la rééducation. Donc au travers d'une prescription médicale, eh bien, je permets de maintenir la santé des personnes, de maintenir le travail de rééducation qui a été fait au travers d'une pratique réfléchie, que ce soit pour les seniors, que ce soit pour les personnes, les enfants tout simplement.
Et pour toi, si tu as des choses Philippe, à ajouter par rapport aux actions concrètes que vous menez à CapSport ?
Voilà, donc comme je le disais, donc on a des créneaux qui se déroulent au sein de structures spécialisées. On accueille aussi sur nos créneaux, nous ce qu'on prône, c'est la mixité, la cohésion, l'inclusion de tous les publics. Donc on essaye, dans la mesure du possible, quand la situation handicap le permet, d'intégrer sur des créneaux type ordinaire, entre guillemets, les personnes en situation de handicap. Et donc ça se fait très bien en termes de cohésion, en termes d'inclusion. On n'a que des retours positifs, que ce soit les personnes en situation de handicap ou les personnes qui ne le sont pas. Et donc nous, on prône aussi les valeurs, voilà, non seulement de la mixité, mais de la cohésion sociale, de l'inclusion et tous les bien-être que ça peut apporter au niveau social également. On est dans une démarche de santé globale, physique, mentale et sociale.
Alors moi, j'avais une petite question. Pour accéder au sport, en général, il faut un certificat médical. Comment ça se passe là pour les personnes en situation de handicap ? Est-ce qu'il y a... possibilité de dérogation ? Est-ce qu'il faut aller voir un médecin spécialisé ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est différent de sportifs valides, si on peut dire ?
Donc non, alors la démarche, c'est comme une salle de sport traditionnelle, c'est-à-dire que voilà, les personnes qui ne sont pas friands d'une mise à disposition de matériel comme dans les grosses chaînes peuvent venir me voir. pour justement être guidé dans une pratique qui se veut être vraiment adaptée. Donc après, oui, en effet, il y a des gens qui ont des pathologies beaucoup plus longues, donc les affections longue durée, les ALD, pour qui une prescription médicale est nécessaire. Donc d'une part pour un remboursement potentiel, et d'autre part pour que moi, je puisse savoir vraiment ce que le corps médical souhaite travailler. Donc on est plutôt moins axé sur ce qui est vraiment médical, c'est du sport vraiment médicalisé.
Pour vous, il y a...
Ah, effectivement, ça dépend du type de profil, du type de handicap et ce que ça engendre comme conséquence derrière. Donc on a effectivement des gens qui viennent avec une prescription médicale. Donc nous, on les réoriente vers du partenariat parce que nous le sport sur ordonnance se fait uniquement avec IMAPAC, donc le système, l'organisme qui travaille avec Onco Basse-Normandie, donc le centre Baclès. Donc dans ce cadre-là, on accueille des publics qui sont traités ou en rémission de cancer. Donc là, c'est du sport sur ordonnance, pareil, avec un public bien particulier. Voilà, et sinon, on travaille avant ou après le dispositif prescrit sport. Et effectivement, bon, ça nécessite aussi un encadrement. Donc là, on n'a pas parlé des formations, mais ça nécessite un encadrement et ça nécessite de renforcer l'équipe en interne de façon, voilà, suivant les types de pathologies, les ALD, voilà, ça nécessite des formations complémentaires ou des qualifications vraiment spécifiques.
Alors, Vous avez un petit peu spolié la question suivante, puisque j'allais y venir. Est-ce qu'il faut du coup des formations spécifiques? Et puis, vous, comment vous vous formez pour pouvoir répondre aux attentes des sportifs?
Alors, de façon générale, il faut savoir qu'avec les qualifications type BPJEPS, normalement, on est en capacité d'accueillir tous les publics. Sauf que voilà, dans la pratique et suivant les types de pathologies, les types d'ALD, donc il est nécessaire d'avoir des formations complémentaires qui viennent se rajouter au BPJEPS ou d'avoir une licence, un master APA et qui permet voilà, dans certains contextes de pouvoir accueillir des publics avec des pathologies plus lourdes.
En effet, donc pour rebondir à ça également, moi du coup je suis enseignant en activité physique adaptée, donc c'est vraiment un éducateur sportif mais spécialisé dans l'activité physique adaptée et à la santé. Et moi, pour augmenter un petit peu mon champ, mon répertoire pédagogique, je suis également enseignant d'EPS pour augmenter vraiment mon portefeuille de situations pédagogiques.
Ok. Et alors, les handicaps, vous l'avez dit, peuvent être plus ou moins le jour. Et j'imagine que la préparation n'est pas la même suivant les pathologies. Alors, comment se passent les premiers contacts avec les nouvelles personnes qui souhaitent s'entraîner avec vous, notamment Donovan? Pour commencer.
D'accord, ben moi tout simplement c'est le dialogue et le sourire. Si j'arrive à avoir un premier contact avec un sourire et un dialogue, eh ben, je peux commencer ma séance tout simplement, que ce soit au travers d'un échauffement au vélo, au step, sur un échauffement plutôt lié au crossfit, ou bien pour les personnes âgées sur des parcours de motricité. Donc une fois que le contact et le sourire est fait, eh ben, en fait, les personnes se dévoilent entièrement et voilà, elles nous disent réellement ce qui peut leur poser problème dans la vie de tous les jours. Donc là, après, moi, je cible mon travail sur ce qui leur pose problème.
Et tout à l'heure, on parlait, Philippe, des autistes. Concrètement, quel sport vous faites avec eux?
Alors, on ne parle pas forcément de sport, mais d'activité physique ou d'orientation d'activité physique vers le sport. Donc, je prends l'exemple des enfants. Donc, on travaille sur un objectif global qui s'intègre dans le développement de l'enfant, de l'adolescent. Donc on travaille sur la motricité globale, la motricité fine, sur la coordination, sur le renforcement musculaire. Donc il faut savoir que dans le cadre du développement général de l'enfant, il faut travailler physiquement de façon à permettre un développement global qui a aussi bien un bénéfice d'un point de vue physique que d'un point de vue mental. Donc avec des enfants autistes, si on prend l'exemple de ce qui se fait dans les pays anglo-saxons, il y a vraiment un travail de condition physique, de conditionnement physique qui est très favorable au développement général et au développement psychomoteur notamment.
Alors, une petite dernière question, on a le temps ou pas, Théo?
Oui, bien sûr.
Dans l'introduction, on évoquait les bienfaits. Et que pouvez-vous, vous constater au quotidien quand vous suivez des individus, les progrès, comment ça se passe que... Pour vous?
Moi, ce que je constate, c'est que les gens aiment bouger au final. Donc, dans la vie de tous les jours, bah, malheureusement, le temps de trajet, le travail, la vie quotidienne fait qu'on ne bouge plus énormément. Mais les gens apprécient le fait de bouger, le fait de tout simplement faire la chose. Donc, moi, mon mot d'ordre dans mes séances, c'est tout simplement bouge. On s'en fiche, bouge.
Et quelque chose à ajouter, Philippe?
Ce que veulent les gens avant tout, c'est prendre du plaisir. Donc, bien souvent, c'est la situation qui crée l'action, puisque Voilà, on met en place une situation et voilà, donc y a une situation, il faut que ça soit ludique, il faut qu'il y ait des interactions, il faut que les gens puissent prendre du plaisir, s'amuser, faire de l'activité physique en s'amusant. Et là, on a gagné aussi. On a gagné parce qu'ils prennent du plaisir, donc ils ont le sourire, ils ont la banane. Et on a gagné leur confiance aussi, ce que disait Noven tout à l'heure sur les premiers accueils. Donc c'est important que les gens soient en capacité de se livrer. Il y a bien souvent des choses qui relèvent du secret médical. Donc nous, on n'est pas censé savoir certaines choses. Par contre, nous, ce qu'on préconise, c'est qu'ils nous donnent les renseignements utiles à leur accompagnement. Voilà, nous, on n'est pas des professionnels de santé à proprement parler. Mais on a besoin de savoir certaines choses pour accompagner au mieux les gens. Et il y a également, pour revenir sur dans le prolongement de cet accueil, donc il y a une phase d'évaluation qui est importante aussi, avec la mise en place de tests, etc., de façon à proposer un accompagnement de qualité sur la base d'évaluation.
Juste un tout petit, je sais qu'à Cap Sport, tu disais, toi tu es référent, mais il y a aussi toute une équipe, vous êtes combien à encadrer le pôle
Sur l'ensemble des salariés, on est 43 salariés, plus les stagiaires et les services civiques, ça peut faire jusqu'à 70 personnes en activité. Et on a une dizaine de personnes qui interviennent de façon plus ou moins importante sur le pôle santé handicap, avec des pilotes, ce qu'on appelle des pilotes, donc des référents par rapport aux dispositifs, des animations, donc qui gèrent l'animation, la programmation, la planification, les ressources humaines au sein d'un dispositif. Donc nous, on est assez organisé donc en termes de préparation, de séances, de restitution, de bilan, parce que on a beaucoup d'actions qui sont financées par rapport à des publics particuliers, donc on doit rendre des comptes, c'est normal. Quand on a des financements publics, il faut rendre des comptes, donc ça nécessite une organisation et une analyse de nos pratiques d'un point de vue quantitatif et qualitatif qui soit vraiment représentatif.
D'ailleurs, juste une petite parenthèse, il me semble que Zoé Binet fait partie de cette équipe.
Oui, tout à fait.
Qu'on avait interviewé il y a peu de temps dans le sport et handicap, sport et au féminin, pardon, et qui était intervenu et qui est aussi sur le pôle santé.
Oui, tout à fait. C'est une des pilotes, notamment du pôle handicap. Voilà, parce que sur le pôle santé handicap, donc, c'est un pôle à plusieurs têtes et on est sur un principe un peu de gouvernance partagée. Donc on essaye de faire en sorte que chaque personne puisse contribuer au développement, à l'optimisation du pôle et de ses différents dispositifs. Donc c'est pour ça qu'on a des réunions régulières de façon à optimiser notre fonctionnement. Voilà, mais effectivement, Zoé fait partie des pilotes, des personnes référentes sur le domaine du handicap.
Eh ben, merci à tous les deux pour ces premières réponses aux questions que David vous a préparées. Merci David. Dans quelques minutes, d'ailleurs David, c'est l'heure de ta chronique. Mais juste avant ça, on va écouter un morceau de Grand Corps Malade.
La nuit est belle, l'air est chaud et les étoiles nous matent, pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances. La vie est calme, il fait beau, il est 2h du mat, on est quelques sourires à partager notre insouciance. C'est ce moment-là hors du temps que la réalité a choisi, pour montrer qu'elle décide et que si elle veut, elle nous malmène. Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie, souviens-toi de ses sourires, ce sera plus jamais les mêmes. Le temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule. Les envies, les projets, les souvenirs, dans ma tête y a trop de pensées qui se bousculent. Le choc n'a duré qu'une seconde, mais ces ondes ne laissent personne indifférent. Votre fils ne marchera plus, voilà ce qu'ils ont dit à mes parents. Alors j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle. Un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion. Un monde où être autonome devient un objectif irréel. Un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention. Ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes préoccupations. Les soucis ont une autre échelle et un moment banal peut être une très bonne occupation. Ce monde respire le même air mais pas tout le temps avec la même facilité. Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange. Les handicapés. On met du temps à accepter ce mot, c'est lui qui finit par s'imposer. La langue française a choisi ce terme, moi j'ai rien d'autre à proposer. Rappelle-toi juste que c'est pas une insulte, on avance tous sur le même chemin. Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain. Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil roulant, ou face à une aveugle, vas-y tu peux leur parler normalement. C'est pas contagieux pourtant avant de refaire mes premiers pas. Certains savent comme moi qu'il y a des regards qu'on n'oublie pas. C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de résistance. Un équilibre fragile, un oiseau dans l'orage. Une frontière étroite entre souffrance et espérance. Ouvre un peu les yeux, c'est surtout un monde de courage. Quand la faiblesse physique devient une force mentale, quand c'est le plus vulnérable qui sait où, quand, pourquoi et comment, quand l'envie de sourire redevient un instinct vital, quand on comprend que l'énergie ne se lie pas seulement dans le mouvement. Parfois, la vie nous teste et met à l'épreuve notre capacité d'adaptation. Les cinq sens des handicapés sont touchés, mais c'est un sixième qui les délivre. Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, ce sixième sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre.
On ne pouvait pas évoquer le handicap sans écouter Sixième Sens de Grand Corps Malade. Vous êtes toujours dans l'émission Bonjour Turbine, en direct du Media Lab du WIP. On parle donc sport et handicap. David, c'est oui. Ta chronique ?
Oui. Alors, comme d'habitude, je flirte avec le sujet. Et en ce jour de grève dans Bonjour Turbine, j'évoque le handicap et l'enseignement au travers... d'un épisode véridique réalisé pour une émission de télé dont ceci est une fiction réelle. Décor. Dans une salle de classe moyenne, 35 élèves chahutent en attendant leur prof d'histoire géo. Maître Loïc, qui fait son entrée vêtu de son costume vert olive, pantalon pattes d'éléphant et cravate orange sur une chemise blanc cassé. La musique des trompettes Aïda accompagne son entrée. Il bombe le torse, sa serviette de cuir à la main, et dès qu'il entre, les enfants se lèvent et se rassoient. Blandine, la rapporteuse de service, lève la main et lance d'un ton de mégère « Monsieur Kevin a remplacé l'eau du hamster par du café. En plus, c'était du Robusta. Le hamster est mort. J'espère que vous allez le punir. » Effectivement, l'animal habitué au décaféiné a fait une crise cardiaque. « Le hamster est mort! Vive le hamster !» hurle Jason du fond de la classe en brandissant le cadavre du rongeur par la queue. Maître Loïc fronce les sourcils et s'écrie « Kevin, au coin, les mains sur la tête !» Tobias, toujours aussi faillot, lève la main et dit « Monsieur, sauf votre respect, Dieu vous pardonne, mais le jumeau que vous désignez n'est pas le bon. C'est son frère Jason qui a fait le coup. » Loïc se raidit de colère. Bah, il prend une couleur rouge du coup aussi. La caméra zoome vers son visage et plonge dans son regard noir. Puis on entend des rugissements, des cris de perroquet. Alors on bascule dans le rêve et la magie de l'imagination nous transporte ailleurs, loin de la classe. Loïc apparaît en cornac chevauchant un éléphant en habit brodé d'or, vêtu de soieries et orné de pierres précieuses. Il tient un sceptre dans la main, on dirait l'entrée triomphale du général animal dans une cité de Carthage. À sa suite, Kevin et Jason transpirent en transportant des mâles. Blandine agite une plume d'autruche en guise d'éventail, tandis que l'éléphant évente de ses oreilles les pieds de maître Loïc. Apolline Courreau, la jolie collègue de Loïc, une bible à la main, est perchée en maillot de bain sur la trompe de l'éléphant et lance des œillades de séduction au public. Tout ce bel équipage pénètre dans un village aux nombreuses cases en paille. Des acclamations fusent de tous côtés. Les indigènes offrent des danses endiablées au son des tam-tams en guise d'accueil. Soudain, Walter Scott, le proviseur du lycée, majestueux, vêtu d'une toge noire, sort de sa case. La musique cesse et il dit « Bienvenue au grand noble et puissant conquistador du monde standardisé, venu du fond des âges sur le descendant du mammouth pour apporter la lumière et la vérité et la pureté à l'âme et à l'esprit de nos enfants avides de nourriture et de philosophie. Vive Loïc, premier roi des écoles !» Le grand Loïc, du haut de son pachyderme, lui tend sa main à baiser. Deux hommes noirs l'aident à descendre de sa monture et l'accompagnent jusque dans l'école du village. Là, surprise, une statue de lui façon penseur de Rodin, a été placé dans l'entrée. Des banderoles multicolores flottent au plafond. Le sol est jonché de pétales de fleurs. Un parfum de rose s'exhale dans l'air. Quelle réception, pense le maître, moi qui ne suis au fond qu'un petit fonctionnaire de l'enseignement confessionnel. Un parterre d'élèves suspendus à tant de splendeur semble pétrifié, les bras croisés sur les pupitres. Quelle sagesse, pense Loïc, j'en ai toujours rêvé. C'est presque trop. Tous se lèvent puis se prosternent devant sa majesté éblouissante. Alors, dans un silence royal, notre grand vizir entame un discours enflammé sur la liberté. Sa première phrase rappellera quelque chose aux barbus parmi les plus anciens du village. « I have a dream !» Noir. À l'écran, on revient dans la vraie classe et la caméra effectue un zoom arrière sur Loïc. On entend des règles qui tombent, des papiers froissés, des chuchotements, des ricanements. La petite voix aiguë de Blandine le rappelle à la réalité. « Monsieur, quand allez-vous le punir ?» La caméra filme le visage de Loïc en gros plan. On le voit pâlir, il se décompose et s'affale de tout son poids sur sa chaise. Comme s'il portait toute la misère du monde sur ses épaules. Il balaye du regard sa classe, il s'aperçoit qu'un des jumeaux n'est plus là. L'alarme retentit, on voit un plan où Jason tire l'alarme incendie. Tout le monde sort de la classe, sauf Maître Loïc, qui se lève machinalement, s'approche de la cage du hamster. Il prend l'animal pantelant dans ses bras comme un bébé et dit d'un ton dramatique en s'adressant au hamster « N'abandonne jamais tes rêves ». Voilà, l'épilogue de cet épisode, c'est qu'on a dû interner le pauvre maître Loïc au Bon Sauveur. C'est son handicap et je pense qu'il est irrécupérable. Voilà, merci de m'avoir écouté.
Merci David pour cette chronique. On va reprendre l'interview. Cette fois-ci, on va plutôt parler représentation du handicap. Que les Français se font et globalement le développement du handisport en France. Là, je prends ma casquette de statisticien et de journaliste. Selon un sondage Odaxa de 2020, fait à l'occasion des Jeux de Tokyo, on s'aperçoit que la majorité des Français ont une image positive du handisport et respectent beaucoup les sportifs en situation de handicap, mais ils sont 72% à trouver que ces sports ne sont pas suffisamment médiatisés. Qu'est-ce qui manque, selon vous, encore aujourd'hui, et quelle serait l'étincelle qui pourrait mettre vraiment le handisport sur le devant de la scène ?
Tout simplement la représentation du handicap qui semble être encore beaucoup trop tabou à l'heure actuelle. Il y a de trop nombreux regards qui dévient lorsqu'on voit une personne en fauteuil roulant, lorsqu'on voit une femme sans cheveux. Voilà. Il y a une interprétation négative du handicap alors qu'on le sait qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont handicapés.
Oui, tout simplement dans la vie ordinaire entre guillemets. Donc la pratique des personnes en situation de handicap s'est développée de façon inclusive dans les fédérations classiques, puisqu'ils ont créé des sections, des formations en interne pour accueillir les personnes en situation de handicap. Et moi, je sais qu'à travers ma pratique personnelle, j'ai toujours côtoyé des sportifs en situation de handicap sur des compétitions avec des personnes valides, donc les règlements sont adaptés. Et j'ai appris, je dirais, sur le tard qu'il existait une fédération française d'handisport, de sport adapté. Et voilà.
Et on a, d'ailleurs, il y a des comités régionaux. On a un comité normand de handisport. Qui est à Hérouville. Mais dans ce cas-là, alors du coup, c'est que, en fait, ces sportifs-là, ils sont connus, entre guillemets, dans le milieu, entre sportifs.
Ils vivent c'est de l'entre-soi, quoi. Ils vivent entre eux, donc ils sont connus dans leur petit milieu du monde de l'handisport. Mais après, en termes de représentation, voilà. Parce que c'est assez limité.
Ouais, parce qu'en termes de volume, si je peux parler comme ça, finalement, il n'y a pas. En tout cas, j'ai l'impression, vous me dites si je me trompe, mais qu'il n'y a pas tant de personnes en situation de handicap qui pratiquent un sport. Est-ce que. Vous pensez que c'est difficile aussi pour certaines personnes? Justement, on parlait dans la première partie de l'interview de comment ça se passait, les premiers contacts. Est-ce qu'il y a aussi, avant le premier contact, le fait que la personne en situation de handicap accepte le fait qu'elle peut faire du sport?
Oui, donc c'est un de mes buts premiers aussi, c'est de faire venir ces gens-là. Donc je vais vraiment à la rencontre de ces personnes-là, que ce soit en masse, que ce soit dans les résidences des personnes âgées ou même dans les micro-trottoirs. Ça m'arrive un petit peu naturellement quand je me promène dans les magasins de faire ma propre promotion pour dire que c'est pas parce que vous êtes handicapé qu'on peut rien faire. Donc en effet, il y a très peu de volume, comme vous l'avez dit tout à l'instant, mais c'est parce qu'il y a peu de personnes qui passent le pas.
Il y a des gens qui s'interdisent de faire certaines formes de pratiques. Il faut savoir qu'il y a pas mal d'associations où on peut pratiquer, une personne en situation de handicap peut pratiquer dans une association classique, ordinaire. Voilà, puisque bon, après, ça dépend du handicap, bien sûr, mais il y a toujours des possibilités. Après, il y a des associations affiliées à des fédérations où ils ont intégré la pratique de personnes en situation de handicap. Mmh. Et effectivement, après, il y a les fédérations handisport, etc.
Et vous avez des exemples d'associations où ça peut être pratiqué, qui ne sont pas forcément connues, du coup, justement, pour les personnes en situation de handicap ?
Alors, sur Caen, je ne connais pas toutes les associations, mais moi, ma discipline de prédilection, c'est la force athlétique. Donc, nous, on propose une pratique de compétition qui s'appelle le développé couché.
D'accord.
Donc, qui s'appelle l'haltérophilie handisport au sein de la Fédération handisport. Et donc, on organise des compétitions communes. Donc dernièrement, il y a eu une finale nationale de développé couché où il y avait simultanément, il y avait deux plateaux, il y avait les personnes en situation de handicap qui pratiquaient la compétition avec des personnes valides, avec du matériel spécifique. Et voilà, ça a permis de mettre en lumière leur pratique au sein d'une fédération plus grosse et ça se passe très bien. Donc je pense que c'est une bonne façon de faire la promotion de la pratique sportive des personnes en situation de handicap, d'intégrer des compétitions mixtes par exemple.
Alain, je crois que ça rejoint une question que toi, tu aurais aimé poser.
Oui, c'est une question un rêve aussi, un peu comme ce que disait David tout à l'heure. À bientôt un an des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, je rêve que les JO deviennent des Jeux des valides et des porteurs de handicap sans distinction. Non pas en ouvrant les épreuves au mélange des participants, mais en ajoutant aux épreuves les épreuves paralympiques aux épreuves olympiques. On pourrait ainsi voir un 100 mètres de valide suivi par un 100 mètres fauteuil devant un stade plein de 80 000 personnes, comme peut accueillir le Stade de France. Qu'en pensez-vous ?
C'est une bonne question qui nécessite de faire le tour de beaucoup de choses. Est-ce que oui, moi je le serais pour. Je serais pour qu'il faudrait vraiment inclure tout le monde. Mais après, voilà, ça relève de l'audimat, ça relève aussi des sponsors qui sont derrière. Parce que quand on connaît un petit peu le budget qu'il faut pour les Jeux Olympiques, ça relève d'une autre question.
En posant la question, j'avais un peu ce type de réponse. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on veut se donner bonne conscience en faisant des Jeux Olympiques qui coûtent la peau de toutes les fesses réunies et de mettre des Jeux Paralympiques pour faire plaisir, mais que le fric, c'est surtout sur les Jeux Olympiques et le reste. C'est un peu comme le sport féminin, le foot féminin, on met ça dans les stades annexes ou dans des stades d'entraînement. Avec des pelouses de merde qui font que les filles se blessent. Donc voilà, mais j'avais un peu la réponse en posant la question.
Non, mais c'est pas que ce n'est pas riche, que le sport handisport, que l'handisport n'est pas riche ou qu'il ne soit pas excessivement bien. C'est juste que le modèle économique et tous les sponsors et tout ce que l'argent dégage derrière, malheureusement, le sport handicapé ne peut pas actuellement permettre d'être sur le même pied des stades que le sport valide.
Je pense aussi que c'est le regard des gens sur le sport, sur le handicap, qui fait que il y a certaines choses qu'on préfère mettre de côté.
Oui.
Après, en dehors de la volonté politique, c'est une question d'éducation aussi. Donc il faut l'éducation, ça peut se faire, pas uniquement avec des enfants, mais avec des adultes aussi. Donc il n'est jamais trop tard pour éduquer, éduquer le regard, éduquer, poser les bonnes questions.
Tu veux intervenir, David ?
Je remettais le micro à la bonne
hauteur.
Voilà. Okay.
Justement, ça rejoint un peu la vision d'Alain et pour habituer justement les gens à voir toute personne pratiquer du sport, ça passe aussi forcément, on l'a un peu dit, mais sur le fait de casser la barrière de se mettre au sport malgré son handicap. Est-ce que vous avez déjà un peu parlé de ce que vous mettez en place à votre échelle ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait mettre en place si vraiment il y avait des moyens au niveau national, des politiques qui seraient envisageables, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que les gens se mettent au sport ?
Tout simplement, il faut faire déjà la distinction entre le sport et l'activité physique. Le sport, c'est vraiment la recherche de performance sur vraiment ce qu'on est capable de faire et sur des données paramétrées, chronométrées. Déjà, d'une part, avant d'accéder au sport, il faut accéder à l'activité physique. L'activité physique, c'est bouger. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un paquet d'associations qui donnent les possibilités de faire bouger les gens. Les gens les connaissent, mais ils ne prennent pas les moyens d'eux. D'où ma requête, d'où le fait que j'aille chercher les gens sur les micro-trottoirs, que j'aille dans les masses ou des choses comme ça. Donc en fait, avant d'accéder au sport, il faut déjà prendre l'étape, accéder à l'activité physique.
D'accord.
Il faut travailler sur les freins, effectivement. Donc, ouais. Les freins, ça peut être la mobilité. Donc, quand les personnes ne peuvent pas se déplacer, il faut aller dans les foyers d'accueil, les maisons spécialisées. Donc là, on travaille avec des personnes atteintes de handicap assez lourd en règle générale. Mais donc ça nécessite des financements aussi. Donc il faut répondre à des appels à projets. Il faut se positionner sur différentes actions. C'est une volonté, une volonté des structures travaillant avec les personnes en situation de handicap. Et tout le monde n'a pas forcément la volonté d'aller vers ces types de publics.
Il faut avoir la volonté de tout instant pour vraiment mener ce travail de longue haleine, finalement. Merci à tous les deux pour votre présence,
merci.
Pour vos réponses à nos questions. David, je te laisse reprendre la main pour introduire la prochaine chanson.
Oui. Alors, en 2015, à l'occasion de la 60e édition du concours de l'Eurovision de la chanson qui s'est déroulée à Vienne, la Finlande était représentée par PKN, un groupe punk composé de 4 personnes handicapées mentales. En effet, le chanteur Kari Aalto, le batteur Toni Valitalo, le bassiste Sami Elé et le guitariste Pertti Kurikka sont autistes ou porteurs de trisomie 21. Leur chanson, je vous le donne en français, « Chaque fois que je le dois » est la plus courte de l'histoire de l'Eurovision avec une durée d'une minute 37 secondes. Les 4 membres se sont rencontrés en 2009 lors d'un atelier pour personnes souffrant de déficience intellectuelle. Ils ont alors créé leur groupe PKN et ils ont rapidement connu le succès. Ils se sont produits aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne ainsi qu'en Norvège. Le groupe a même été le sujet d'un documentaire, The Punk Syndrome, réalisé en 2012. Ils se sont séparés en 2016 après les 60 ans du guitariste. On écoute donc un morceau de leur composition. De retour dans Bonjour Turbine, en direct sur Station B et en différé sur Radio Pulse. Alors avec un grand retour, celui de Mad, en tant que chroniqueuse dans quelques minutes. Mais juste avant, c'est au tour d'Alain pour son habituelle chronique Conteur Flâneur. Flâneur, conteur, c'est dans le sens que vous voulez.
Alain Breton, photo flâneur, conteur. Une photo, une histoire, des histoires sur la Normandie ou les environs. Wow. Alors cette photo, je l'ai prise en mai 2022, avant le départ de la Normandie Channel Race, une course en duo à la voile avec un monsieur qui s'appelle Pierre-Louis Atwell et qui est avec Maxime Bensa. Et ils sont de nouveau inscrits pour la prochaine édition qui partira en juin prochain de Caen. Elle montre Pierre-Louis Atwell, skipper du bateau, classe 40, vogue avec un crâne dans le bassin Saint-Pierre à Caen. Il a aussi participé à la dernière en date la route du Rhum et c'est en solitaire qu'il avait commencé en participant à la solitaire du Figaro. Voici ce qu'il dit à propos de sa maladie et du projet. Vogue avec un crâne, c'est l'histoire d'un jeune patient atteint de la maladie de Crohn qui rêvait de larges d'aventures en mer. Diagnostiqué d'une maladie de Crohn à l'âge de 16 ans et après plusieurs années de rapports difficiles à la maladie, Pierre-Louis Atwell lance en 2017 le projet Vogue avec un crâne afin de participer à la mythique solitaire du Figaro. Lancer le projet Vogue avec un crâne a été l'une des choses les plus bénéfiques que j'ai pu faire pour moi-même et pour les autres. Je ne suis jamais senti aussi bien que depuis que je parle de ma maladie quotidiennement. L'idée était de communiquer largement sur les MICI, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, et particulièrement auprès du grand public qui connaît peu ou mal ces maladies. Vogue avec un crâne devient également un symbole d'espoir pour les 250 000 patients atteints de MICI en France, en portant haut et fort le message « Même malade, tout est possible ». En 2018, un mois après la solitaire du Figaro, Pierre-Louis est opéré en urgence pour une perforation du côlon. Il se voit alors obligé de vivre avec une stomie digestive, une dérivation du système digestif vers une poche externe qui recueille les selles pour au moins 6 mois. Une nouvelle épreuve pour le skipper qui, malgré les difficultés, ne se laisse pas décourager, au contraire. Quand on m'a dit que j'allais être stomisé, ça a été un choc. Avant même d'arriver au bloc opératoire, je me suis dit que si ma maladie ne m'avait pas empêché de vivre mes rêves, ma stomie ne m'en empêcherait pas non plus. Chapeau à lui. Pour finir, je vais pousser un coup de gueule. Ça m'arrive rarement, mais je vais le faire aujourd'hui pour montrer ma colère et mon indignation, oui, à l'égard de la Banque Populaire, Banque de la Voile, paraît-il, qui a carrément jeté sa skippeuse Clarisse Kremer, qui ne pourra pas participer au prochain Vendée Globe, course autour du monde sans escale et en solitaire. Le record actuel est de 74 jours, donc 3 à 4 mois de course pour les plus lents, dont elle avait pourtant terminé 12e sur 25 à l'arrivée, 33 au départ. Il y a eu 8 abandons il y a 3 ans. La raison invoquée par Banque Populaire, c'est que le nouveau règlement oblige les skippers à parcourir un certain nombre de milles en course. Milles que Clarisse n'a pas réalisé. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, elle est devenue maman. Voilà maintenant pour une femme, avoir un enfant est devenu un handicap dans le monde de la voile. Et la Banque Populaire s'est empressée de la virer plutôt que de la défendre. Elle qui met un pognon fou comme sponsor de la voile. Je trouve ça dégueulasse. Heureusement, les choses changent. Lentement. Dans d'autres sports, comme le judo par exemple, Clarisse Agbegnenou a peu participé aux compétitions accompagnée de sa fille de 5 mois, encouragée par sa fédération, même si elle est en conflit avec celle-ci pour des problèmes de marque de ce kimono. Et aussi en football, après un gros conflit entre l'Olympique Lyonnais et Sarah Björk Gurnardóttir pour cause de grossesse, une joueuse islandaise, le club avait diminué son salaire, 27 000 euros au lieu de 109 000. Une bagatelle. Une autre joueuse, Amel Majri, a, elle, été accompagnée par le club pendant sa grossesse. La leçon a été retenue. Le club avait été condamné à payer les arriérés de salaire de la joueuse islandaise. Donc, il faut que les choses bougent pour que ce genre de situation déplorable continue. Et moi qui suis client de la Banque Populaire, je me prépare à aller leur dire ce que j'en pense.
Bien, merci Alain. Comme nous vous l'annoncions, voici le retour tant attendu de Mad et de sa chronique.
Et je suis désolée, j'ai pas de jingle et je vous épargnerai de chanter une petite chanson. Je suis ravie de vous retrouver après ces quelques temps loin des micros et du Media Lab. Je suis super contente d'être parmi vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me touche particulièrement, tellement je suis admirative plus devant tous ces athlètes de handisport. Admirative au point de pleurer à chaque médaille remportée par ces champions. Vous allez vraiment croire que je passe ma vie à pleurer. Mais le sport, peu importe par qui il est pratiqué, est pour moi un vecteur d'émotions incroyables. Et je vous avoue que l'un de mes rêves les plus chers et certainement très peu réalisables serait d'aider un athlète handisport à réaliser son rêve de haut niveau. Je pose ça là, on ne sait jamais qui écoute. Bref, le sujet est lui aussi très vaste et bercé d'histoires plus belles les unes que les autres, mais aussi difficiles. une vie et des rêves qui se brisent après avoir été renversée par une voiture pour Pauline Desroulèdes, qui devient par la suite joueuse de tennis handisport avec comme objectif Paris 2024. Des mots insoutenables prononcés par le président d'un club de foot à Timothée Adolphe, malvoyant, qui deviendra plus tard champion du monde de para-athlétisme sur 400 mètres, vice-champion du monde sur 100 mètres et vice-champion paralympique sur 100 mètres. Ou encore une maladie à la naissance affectant le système nerveux et l'usage des membres inférieurs pour le roi Arthur Bauchet, triple champion paralympique de la descente, du super combiné et du slalom en 2022, rien que ça. Des exemples d'athlètes qui ont fait de leur faiblesse une force, il y en a beaucoup, et chacun a une histoire particulière à raconter et à admirer. D'ailleurs, le sport paralympique continue son ascension dans la médiatisation. Aux derniers Jeux paralympiques d'été à Tokyo, carton plein, près de 24 millions de Français se sont passionnés pour cette compétition sur les antennes de France TV, qui avait proposé 100 heures de direct, ou 100 heures, Désolée pour mon petit français, pas super. Concernant les Jeux paralympiques de l'hiver dernier, France TV proposait 60 heures de direct et a attiré 17 millions de Français durant l'édition. Et on ne s'arrête pas en si bon chemin, France TV diffusera les Jeux paralympiques de Paris et pour la première fois dans l'histoire des Jeux paralympiques, tous les sports seront captés et diffusés en live avec un accès gratuit à 300 heures de direct. Et puisqu'on est sur le sujet des Jeux, j'ai une question pour ceux qui s'étaient inscrits sur la billetterie en ligne. Alors, je ne sais pas s'il y en a dans la salle en ce moment, mais s'il y en a, est-ce que vous avez réussi à faire partie des heureux élus du tirage au sort ?
Perso, je n'ai pas essayé.
Personne ? Bon, bah alors du coup, j'ai été la seule à avoir été hyper déçue. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, puisque 3,4 millions de billets seront mis en vente durant l'automne 2023 pour les Jeux paralympiques qui auront lieu du 28 août au 8 septembre et sans le système de tirage au sort et de pack 3 billets. Normalement, les prix des billets devraient être moins délirants que ceux qu'on a connus récemment et c'est une occasion en or, petit jeu de mots, pour aller voir l'une ou plusieurs des 549 épreuves au programme, parfait pour verser sa petite larme lors des podiums. Mais le sport, ce n'est pas que les Jeux, il y a aussi le sport au quotidien, loin du strass et des paillettes. Selon un rapport du Comité paralympique et sportif français, je cite, 48% des personnes en situation de handicap ne pratiquent pas une activité physique et sportive, contre 34% dans le milieu ordinaire. Je cite toujours le comité, en positionnant les personnes en situation de handicap en acteur central de leur activité, le sport est également un outil d'appréhension de ce handicap. Ce qui me fait penser à une des devises d'Adidas, équipementier sportif, au travers du sport, nous avons le pouvoir de changer nos vies. Alors je ne suis pas une experte en handisport et je m'excuse auprès des personnes qui nous écoutent et qui seraient bien plus connaisseuses des enjeux et du sujet, mais je vous invite vraiment à vous intéresser aux histoires de tous ces athlètes d'exception, qu'ils soient au haut niveau ou non. Ce sont des champions au même titre que Kylian Mbappé, que Kevin Mayer ou Perrine Laffont et ils méritent autant notre admiration. Il y a encore beaucoup, beaucoup à faire pour les faire rayonner, comme l'accessibilité aux équipements, la formation des éducateurs, mais on avance et c'est beau. Et pour terminer, je ne pouvais pas finir sans vous donner quelques devoirs. Je vous invite à regarder la série Champions sur France.tv qui suit la préparation pour Paris 2024 de plusieurs athlètes, dont Timothée Adolphe, dont j'ai parlé au début de ma chronique, qui est aveugle et qui nous dit « J'ai le record du monde dans les jambes, ça promet ».
Merci beaucoup Mad pour ta chronique. 19h48, Lafken, je crois que ton heure est venue.
Ce week-end, j'ai assisté à un match d'anthologie, le classico du Cécifoot. Les Ouragans de Saint-Sever contre les Francs-Ballons de Pont-l'Évêque. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Cécifoot, il faut sortir de votre grotte et vous renseigner. C'est du foot pour non et malvoyants. Pour se repérer, on utilise une balle remplie de grelots. Je vois ton regard rempli et lubrique, David. Mais je parle de ces petites boules qui font gling-gling. Bref, j'assistais à ce match, les joueurs donnaient leur maximum, et c'est sur un ultime coup de tête que les Ouragans marquèrent le but final. Excités par leur victoire, l'équipe coura dans tous les sens. Bon à savoir pour les prochains organisateurs, évitez de faire un match de cécifoot au bord d'une falaise, ça fait mauvaise presse par la suite.
Dali était-il fou ou sans esprit ? Picasso voyait-il le monde en cul ?
Ok.
La poule vient de l'œuf, mais l'œuf vient de la poule. La folie, c'est de répéter la même action encore et encore en pensant que ça va changer le résultat.
Encore, encore.
Comment l'homme s'est dit qu'il pouvait boire ce qui sortait de la vache ? Qui est le premier à s'être demandé si c'était normal d'avoir des voix dans sa tête ? Si j'achète du pain avec un tableau, ce serait une croûte ? C'est ça,
la folie.
Après cet humour de mauvais goût, il est temps de vous donner nos prochaines interventions à la microfolie. Commençons par une animation destinée à nos bambins, un théâtre d'ombre autour de la vie du roi Soleil. Cette représentation se passera le samedi 18 mars à 14h30. Nous vous proposons aussi une microfolie en famille le 22 mars à 14h30 autour des Trois Mousquetaires où vous pourrez réaliser une superbe décoration autour de ces quatre personnages. Oui, les Trois Mousquetaires sont quatre. À quoi servent les maths dans le monde littéraire ? Enfin, le samedi 25 mars à 15h, venez découvrir la classe de MAO du CIVOM qui accompagneront une conteuse sur les fables de La Fontaine, une expérience à venir vivre à la microfolie. Et je veux aussi vous parler un petit peu de ce qui se passe entre nos murs, comme les groupes qui sont venus découvrir l'intelligence artificielle et la création d'œuvres d'art, ou encore du fait que nous avons maintenant une toute nouvelle collection sur Paris qui inclut le musée Carnavalet et que nous diffusons à notre public. Mais je sens que vous l'attendez. Alors cette fois, ce sera un peu plus complexe, c'est notre quiz. Et ce quiz, je vais vous donner le nom d'un sport qui existe. À vous d'essayer de me dire comment en fait ce sport fonctionne. Donc on va commencer par un dont j'ai un petit peu cité tout à l'heure. Alors ça marche aussi pour l'ensemble de l'audience derrière. Hein.
Le cécifoot ?
Comment ça marche le cécifoot ?
Pas au bruit du coup ?
Alors effectivement, il y a une histoire de bruit.
De grelots.
De grelots, effectivement, dans une balle.
De bandeau sur les yeux.
Alors, un bandeau sur les yeux, donc ça, c'est très intéressant. Pourquoi le bandeau sur les yeux ? Eh bien, c'est pour que tout le monde soit au même niveau.
Ah.
Au moins, tout le monde joue vraiment, en fait, avec la même notion, un petit peu, de... On ne voit rien.
Ah oui, pour que voyants, non-voyants,
voilà,
malvoyants...
Voilà, que voyants, malvoyants et non-voyants soient okay. Tous au même niveau. Mais on a aussi cette question, bah, pour marquer un but adverse, il faut savoir où se diriger.
Ouais.
Donc en fait, de chaque côté, on va avoir quelqu'un qui va un petit peu guider son équipe vers le but adverse pour savoir où il faut tirer. Et on ne joue pas au bord d'une falaise.
Et on demande aux spectateurs de se taire, j'imagine.
Bah en fait, les spectateurs généralement sont là aussi pour encourager, mais la voix, je pense, de celui qui guide, lui, est quand même plus marquant. Deuxième, l'escrime pour non-voyants.
Pareil, ça doit faire du bruit, non ? Un peu un bruit de sabre laser comme dans Star Wars.
Pas du tout. Mais ça pourrait... Ah, ça serait génial, ça.
Escrime pour non-voyants.
Mais, déjà, ils sont... Il faut qu'ils comptent les touches. Donc, ils sont... Ils ont le système électrique aussi. Donc, ils sont retenus par le fil.
Ils ont le même système, ouais.
Donc, ça doit baliser quand même... J'imagine qu'ils balisent la piste et que, enfin voilà, peut-être qu'il y a un système avec des capteurs en dessous, un truc dans le style.
Alors effectivement, il y a bien une ligne en relief donc qu'ils ont à suivre, et c'est juste que avant chaque attaque, et bah du coup ils doivent sonner leurs épées en fait entre eux pour savoir où ils se situent. Et après, bah c'est juste un petit peu essayer de se guider avec le pas de l'autre et un peu le mouvement que pourrait faire la lame dans les airs. Donc, je pense que c'est une expérience à avoir et c'est très intéressant. Dans mes recherches, j'ai fait « Waouh !» Alors, troisième, est-ce que vous connaissez le goalball ?
Non.
Non.
Le goalball, comment tu écris ça ?
Alors, si on a quoi la réponse, ils ont le droit de donner. Hein, c'est... Le goalball, comme le goal.
Ah oui.
Et ball, le goalball.
Il n'y a qu'un gardien ?
Alors, c'est là toute la différence. Il y a trois gardiens.
Oula.
Ah.
Ça fait penser à du Quidditch, mais
oui,
ça
j'allais dire la même chose.
Alors, du coup.
Ça aurait été marrant que ce soit que De Gaulle.
tout le monde sont De Gaulle. Alors, du coup, en fait, on a trois goals pour trois cages de but, en fait, qui sont assez grandes. Sauf que ces goals sont couchés par terre. Ils sont couchés par terre et ils doivent repérer en fait la balle qui va arriver vers eux, qui elle aussi encore une fois fait gling gling. Et leur but c'est qu'ils ne peuvent vraiment se déplacer qu'en sautant, mais au sol.
D'accord.
Je vous invite à aller voir ce sport, j'ai envie de le faire.
En rampant.
Ah ouais, moi aussi je pense.
C'est ramper sauter on va dire.
Wow.
Dans de la boue ça doit être génial.
Et les tireurs...
Ouais c'est qui tire, c'est ce que j'allais demander.
Et bah les tireurs sont aussi des non-voyants.
Ah oui.
Donc tout le monde est non-voyant dans le goalball. Et les tireurs sont non-voyants et ils vont essayer de tirer vers le but et que la balle reste à ras du sol.
Ok. Et ah oui, intéressant.
Allez, un petit dernier que j'ai trouvé qui s'appelle le showdown. Le showdown.
Alors celui-ci, c'est de la boxe ?
Pas du tout.
Showdown.
De la danse alors.
Je vais vous en apprendre des choses aujourd'hui.
C'est un spectacle par terre.
C'est pas un spectacle. J'ai envie de vous dire qu'en fait le showdown c'est peut-être quelque chose que vous pourriez facilement faire et même dans un bar.
Oh là.
Il faut une barre métallique.
C'est du beer pong.
Alors c'est pas du beer pong. Alors en fait le showdown c'est du air hockey, encore une fois pour non voyants.
Air.
Non mais
du
attends.
Air hockey.
Pourquoi
c'est...
tu fais ça dans un bar? Moi je joue pas hockey dans un bar.
Au air hockey. Le air hockey en fait c'est le petit jeu de palet. C'est le petit jeu de palet en fait qu'on va envoyer sur une table qui doit aller de l'autre côté, qui doit être rentré dans un but. Donc, si je n'avais jamais fait de air hockey, mais je ne sais pas, moi, aller chercher, il y a bien plein d'endroits.
Mais air hockey, enfin, il y a vraiment une table.
Oui, ouais, t'as une table, t'as un petit palet, en fait, il va falloir que tu la renvoies vers l'équipe, vers l'autre joueur. Et c'est un petit jeu que tu vas faire en temps normal. Alors, je t'inviterai à aller chercher sur internet.
Je suis très dubitatif, j'avoue. Oui. Je ne comprenais pas trop le concept. Je me suis dit, c'est quoi? C'est comme le air guitare, tu fais semblant de faire du hockey?
Alors là, c'est plus qu'en fait, c'est ton petit palet qui va glisser sur la surface.
D'accord, oui, j'imagine, il y a un truc qui soulève le... Tout simplement.
Tout simplement. Mais version non-voyante.
D'accord, très bien. Eh ben, merci. Merci, Lafken.
Et du coup, ça me fait penser qu'il n'y a pas longtemps, je viens sur YouTube, j'ai vu un match foot unijambiste. Donc, ils ont tous béquilles, voilà, je vais trouver le mot. Et j'ai vu un but extraordinaire.
Qui a été récompensé.
Un ciseau, en fait.
Oui.
Et digne de Mbappé et de tous les meilleurs joueurs. Et il a réussi, en fait, en prenant appui avec sa béquille, à faire un geste technique et à aller en pleine lucarne. Et je me suis dit, celui-là, il n'a rien à envier aux joueurs valides.
Oui, il a été récompensé par le prix Puskás de la FIFA devant Dimitri Payet.
Oh, voilà. Encore un trophée qu'il n'aura pas.
Justement. Allez, bim.
Donc, on arrive un peu au terme de notre émission. Alors, lors de mes recherches sur le sujet, j'ai découvert aussi une initiative d'une jeune association ouistreamaise qui s'appelle ICEO. Et dont l'objectif est de restaurer un voilier qui pourra accueillir à son bord un équipage handivalide et ainsi favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Alors, vous pouvez aller voir sur leur site. D'autre part, si vous souhaitez pratiquer un sport, vous trouverez des renseignements sur le site du comité régional handisport de Normandie. Sachez également que le comité régional handisport de Normandie se situe au CITIS à 5 avenue de Tsukuba, bâtiment Pentacle à Hérouville-Saint-Clair. Et évidemment, vous pouvez aussi vous rapprocher des structures de nos invités, Médicis Sport et Cap Sport. Voilà.
Merci.
Pour moi.
Merci, David. C'est déjà donc la fin de cette émission. Bonjour Turbine sur le sport et le handicap. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez attrapé l'émission en cours de route, ne vous inquiétez pas, ça sera disponible en podcast sur l'audioblog d'Arte. Bonjour Turbine, vous tapez, vous allez trouver. Et sinon, vous pouvez nous retrouver aussi sur Deezer et Spotify. Je remercie tout le monde autour de la table. Merci Alain, David, Mad, Lafken, Thomas, Marion. Et merci à nos invités Donovan Serkies et Philippe Pasquier. Merci pour votre venue. Salut, à bientôt.
Salut.